La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée au 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée et à son père fondateur, Ahmed Sékou Touré.
Pour une Afrique unie et indépendante, vive la République de Guinée.
Nous sommes le 2 octobre 1958. Sékou Touré triomphe. Il devient le premier président de la Guinée indépendante et s'inscrit officiellement dans la continuité d'un passé glorieux. Descendant par sa mère de l'Almanie Samori Touré, grande figure de la résistance anticoloniale, Sékou Touré s'impose comme l'incarnation de la nation naissante. Il est le peuple de Guinée, celui qui a massivement répondu non au référendum, celui qui refuse de faire partie de la communauté française, nouvelle version de l'empire colonial proposée par De Gaulle.
Sékou Touré, on a beau dire, au début, vraiment, il hésitait beaucoup. Lorsque le 25 août, il a fait son discours, il a franchi le Rubicon. Donc le 14 septembre, on s'est réunis. Et là, maintenant, il a été décidé de voter non. Mais sinon, au début, vraiment, c'était pas acquis. Hein. Le peuple, dans l'ensemble, était pour l'indépendance. La majorité.
Le non de Sékou Touré à De Gaulle n'était pas acquis, se souvient cet électeur guinéen. Et pourtant, le nom de Sékou Touré à De Gaulle est devenu un mythe fondateur de la Guinée moderne. Une fierté des Guinéens, quelle que soit leur vision des années Sékou Touré. Années héroïques ou tout au contraire tyranniques. Mais que représente Sékou Touré à la fin des années 50?
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.
Perçu comme le défenseur des plus faibles, Ahmed Sékou Touré est alors le syndicaliste le plus connu de toute l'Afrique occidentale française. D'abord ouvrier, puis commis auxiliaire des PTT, comptable et cadre du Trésor, le syndicaliste est entré en politique pour devenir député et enfin président de la République. Le destin de Sékou Touré est un destin hors norme, dont il a lui-même construit la légende, comme nous allons l'évoquer avec notre invitée historienne, auteur de l'indépendance ambiguë, une thèse sur la fabrique de la nation en République de Guinée. Bonjour Céline Potier.
Bonjour.
Vous êtes enseignante et docteur en histoire et vous vous passionnez pour la figure de Sékou Touré. Pour quelles raisons, vous qui êtes maîtresse de conférences à l'Université de Nantes?
Alors je dirais que je me passionne peut-être avant tout pour l'histoire de la Guinée, avant peut-être d'être passionnée par la figure de Sékou Touré, mais quand on s'intéresse à l'histoire de ce pays, en particulier des années 40 aux années 80, on ne peut que rencontrer évidemment le destin de cette personnalité, puisque ce pays portait même à un moment les deux noms Guinée-Sékou Touré pour la distinguer des autres Guinées.
Alors pourquoi vous envisagez dans vos recherches Sékou Touré comme un mythe politique?
Je pense que, en effet, on peut parler de mythe dans la mesure où Sékou Touré, à travers son discours du 25 août et la manière dont l'indépendance de la Guinée a été acquise, a gagné d'emblée une aura incroyable. Et ce, pas seulement en Guinée, mais ça a vraiment dépassé les frontières de la Guinée. Ça en a fait un leader de premier plan de l'anticolonialisme. Ce qui a aussi beaucoup fasciné à l'époque, c'est pas seulement l'acte anticolonial, mais la très forte mobilisation de la population derrière lui. Donc ça en faisait aussi un leader populaire. Je crois que ces deux dimensions sont très importantes.
Avec évidemment des années Sékou Touré très controversées, c'est la période 58-84 avec des points de vue très opposés sur les violences politiques, selon que l'on regarde Sékou comme une victime ou un bourreau.
Oui, l'idée de mythe politique pose cette question de savoir finalement ce qui est vrai et ce qui est faux. Puisque dans l'idée de mythe, il y a aussi l'idée que les choses ne se sont peut-être pas tout à fait passées en réalité comme dans le récit qui est en général d'ailleurs construit ou entretenu a posteriori. Et là, je dirais qu'on se trouve non plus face à un Sékou Touré, mais à plusieurs Sékou Touré. Si vous êtes un jeune Guinéen d'aujourd'hui qui s'intéresse à l'histoire de son pays, vous allez trouver que Sékou Touré vous fournit une page illustre de l'histoire de la Guinée et un moment de gloire nationale. Si vous êtes un militant européen sensible aux questions de décolonisation, vous allez trouver dans Sékou Touré une icône de l'anticolonialisme. Si vous êtes un descendant de victimes qui est mort ou qui est disparu dans le camp Boiro, vous allez avoir du mal à retenir l'héroïsme de Sékou Touré. Si vous êtes un exilé guinéen, parti pour des raisons politiques ou économiques, vous allez trouver que son bilan était peut-être discutable. Et je crois que le mythe de Sékou Touré, ce n'est pas soit ceci, soit cela, mais c'est l'ensemble. de ces mémoires plurielles.
En revanche, est-ce que cette figure de Sékou Touré, l'homme qui a dit non à De Gaulle, donc le résistant à la France colonisatrice, pourrait faire l'unanimité?
Oui, je pense quand même que globalement, il y a une espèce de consensus autour du fait qu'il est la figure qui incarne cet acte anticolonial.
Je vous propose d'écouter un extrait de ce discours mythique du 25 août 1958. Sékou Touré a lancé son mot d'ordre, très largement suivi par les Guinéens lors du référendum du 28 septembre 1958. Il est l'homme qui dit non à De Gaulle, non à la communauté française, non à la richesse dans l'esclavage.
Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie, dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ce qui est vrai pour l'homme l'est autant pour les sociétés et les peuples. C'est ce souci de dignité, cet impérieux besoin de liberté qui devait susciter aux heures sombres de la France les actes les plus nobles, les sacrifices les plus grands et les beaux traits de courage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes.
Sékou Touré, grand orateur dans la marche du monde, il s'exprime face au président français Charles de Gaulle. Piqué par la virulence et la détermination du jeune leader du PDG, le Parti démocratique de Guinée, dont je vous propose de rappeler le parcours, Céline Potier, car il faut expliquer comment ce jeune parti politique a déjà profondément bousculé l'ordre colonial.
L'itinéraire de Sékou Touré et du parti ne se confondent, enfin les deux itinéraires ne se confondent pas tout à fait, puisque Sékou Touré fait d'abord, commence d'abord sa carrière comme un syndicaliste. Il est très tôt, alors qu'il travaille au poste, puis il devient fonctionnaire, commis de l'administration, il entre très tôt, dès qu'ils sont autorisés, dans des syndicats, et il va mener un certain nombre de grèves qui vont lui donner une très grande popularité.
Il accompagne par exemple les grandes grèves des cheminots dès 47. À l'époque, il a à peine 30 ans.
Oui, il les soutient et après, il va mener un certain nombre de grèves dans le territoire guinéen, une en 1950 et surtout une restée célèbre sous le vocable la grève des 73 jours. Deux grèves dans lesquelles il va défendre notamment le niveau de salaire des travailleurs.
Et ce qui est frappant, c'est qu'il écrit, il rend notamment honneur à ceux qui luttent en écrivant des éditoriaux enflammés dans une revue qu'il a créée et qui s'intitule L'ouvrier. Mais le syndicaliste va aussi basculer sur des fonctions politiques, ce qui va être autorisé d'ailleurs à partir de 1945. Et il va adhérer au parti du leader ivoirien Oufouette Boigny. Mais pourquoi est-il surnommé l'enfant terrible du RDA?
Alors, il entre en effet dans la section guinéenne du RDA de sa création en 1947. Il évolue déjà d'ailleurs dans les milieux politiques dans les années qui précèdent. Mais il n'en prend pas d'emblée la direction, puisque c'est d'abord le Malien Madeira Keïta qui dirige cette section. Et Sékou Touré ne prend la direction du Parti démocratique de Guinée, donc cette section guinéenne du RDA, en 1952. C'est intéressant parce que c'est une phase difficile pour cette section guinéenne. Elle est créée dans l'enthousiasme en 1947, mais dès 1948, elle fait face à la répression de l'administration. Et c'est à partir de 1950 que ce parti va essayer de se construire sur des bases plus solides, des bases plus populaires, notamment dans les campagnes.
Sékou Touré donc qui dit non à De Gaulle ce 25 août 1958, mais est-ce que ce non était si évident? Je pense par exemple aux consultations et aux rencontres de Sékou Touré avec les étudiants de Guinée ou les étudiants qui parfois d'ailleurs faisaient leurs études en France.
Alors, je crois que le non n'était pas une évidence pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'indépendance de la Guinée est le fruit d'une accélération de l'histoire. Il y a une crise constitutionnelle en France, puisque De Gaulle revient au pouvoir en juin 1958 et propose des discussions sur une nouvelle constitution qui comprend aussi donc, les liens constitutionnels entre la métropole et les colonies. Et donc, l'idée d'indépendance qui était déjà là chez ces leaders, quelque part, va être posée de manière, avec une actualité brûlante, ce qui n'était pas le cas auparavant. Or, ce qu'on observe, c'est que le mot d'ordre du nom donné clairement par le PDG, c'est assez tardif. C'est le 14 septembre 1958. Et ce n'est pas le fruit, d'ailleurs, que de la décision de Sékou Touré, puisque c'est à l'issue d'une réunion du parti que ce mot d'ordre est donné. Deuxième raison pour laquelle ça n'est pas tout à fait une évidence, c'est que si l'on entend bien le discours du 25 août, on s'aperçoit que ce discours est profondément ambigu. Ce qui en fait un acte anticolonial, c'est la performance oratoire de Sékou Touré. Le fait qu'il utilise un ton virulent, qu'il est dans une salle surchauffée, que le public applaudit à tout rompre aux passages les plus audacieux, c'est vraiment ça qui en fait l'acte anticolonial par excellence. Mais le contenu même du discours est plus mesuré qu'il n'y paraît. Sékou Touré essaie de placer le débat, en effet, comme on l'a entendu, au-dessus de considérations économiques et politiques pour savoir si l'indépendance est faisable ou pas. Il met en avant, avant tout, une idée d'ordre symbolique, c'est la dignité africaine. Ce qu'il critique, c'est la manière, finalement, dont le général de Gaulle a posé les débats, et il souhaite en fait faire inscrire dans la Constitution un certain nombre de choses, le droit à l'indépendance et le fait de pouvoir rentrer dans cette communauté africaine, non pas séparée, chacun des territoires séparés, mais regroupés. Et finalement, donc, il s'oppose à la manière dont les Africains sont consultés et il souhaite encore à ce moment-là changer le projet constitutionnel.
Je vous propose maintenant, Céline Potier, d'écouter avec nos auditeurs l'éclairage d'un grand témoin de la décolonisation. Il s'agit de Roland Collin. Il est alors directeur de cabinet du président du Conseil sénégalais, Mamadou Dia. Et depuis Dakar, il suit la préparation du référendum qui va avoir lieu après ce fameux discours du 25 août 1958.
La France a fait de la propagande pour le oui au référendum qui paraissait vraiment fondamental pour la présence aussi de la France en Afrique, et cela a pris diverses formes. Je me souviens de ce que j'écoutais à la radio, et à cette radio, il y avait, disons, cette ritournelle mise en place par le service de l'action psychologique de l'armée française en faveur du oui à la communauté, qui était également répandue par une très large distribution de disques. Et j'ai eu moi-même ce disque entre les mains.
Et vous vous souvenez de cette chanson ?
Bien sûr. Gouvernement nous invite à voter afin de construire la communauté. Faudra dire oui ou bien faudra dire non pour nous donner une constitution. Faudra dire non ou bien faudra dire oui. Mais quand on se marie, ce qu'il faut dire, c'est oui.
D'accord. Et tout ça sur quel type d'air musical ?
Begin.
La Biguine, qui était à l'époque, évidemment,
sûr,
la musique phare sur laquelle toutes celles et ceux qui faisaient partie de cette future communauté française dansaient.
Oui, voilà.
Roland Collin, vous suivez avec attention depuis Dakar, vous êtes le directeur de cabinet de Mamadou Dia. La tournée du général de Gaulle en Afrique, il arrive à Conakry, cette fameuse rencontre avec Sékou Touré. Les deux hommes, alternativement, font un discours. Vous l'écoutez, qu'est-ce que vous savez de ce moment-là historique ?
La rencontre entre le général de Gaulle et Sékou Touré est un moment crucial, parce que l'un comme l'autre avait une personnalité très affirmée. Et De Gaulle venait à Conakry pour faire admettre par son interlocuteur que le projet de la communauté pouvait être pour lui un moyen d'assurer l'avenir du pays. Donc il vient avec ces idées-là. Sékou Touré est tout à fait braqué sur son projet d'aller à l'indépendance immédiate. Le texte de son discours est préparé à l'avance, affirmant la nécessité de l'indépendance immédiate. Et donc, il communique ce texte à Pierre Messmer, qui est ministre de la France d'Outre-mer.
Est-ce que ça veut dire que le général de Gaulle a déjà lu le texte de Sékou Touré lorsque Sékou Touré prend la parole devant lui à Conakry ?
Absolument pas. Pour la bonne raison que Messmer, recevant ce texte, pense qu'il a suffisamment d'emprise, lui, Messmer, sur Sékou Touré. Lorsqu'il a été gouverneur général, il avait favorisé l'ascension de Sékou Touré. Et donc il omet de lire ce texte et de le passer au général de Gaulle, si bien que lorsque le général de Gaulle reçoit de plein fouet les prises de position de Sékou Touré, pour lui, disons, c'est un éclat extraordinaire.
C'est une surprise.
C'est une surprise. Et il répond, disons, du haut de sa propre dignité, face à ce discours qu'il considère comme une agression.
La question entre nous, Africains et métropolitains, elle est uniquement de savoir si nous voulons, les uns et les autres, pratiquer ensemble, pour une durée que je ne détermine pas, une communauté qui permettra de développer ce qui doit l'être au point de vue économique, social, moral, culturel, et s'il le fallait, défendre nos libertés communes contre ceux qui voudraient les attaquer. Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé d'indépendance, je dis ici plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle fait la France le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences, mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra.
Roland Collin, malgré tous les signes envoyés par Sékou Touré, qui invite à penser que Sékou Touré peut tout à fait dire non au général de Gaulle, est-ce que d'une certaine façon, vous avez le sentiment que de la part du ministre des colonies de l'époque, Pierre Messmer, il y a une sorte de mépris à l'égard de Sékou Touré, de la même façon que certains autres chefs africains ont du mépris à l'égard de Sékou Touré ?
D'une certaine façon, on peut dire qu'il y a ce type de réaction, un peu de mépris ou de surplomb, disons, par rapport à Sékou Touré.
Il est sous-estimé.
Il est sous-estimé ou il est estimé, disons, comme n'étant pas au niveau des autres. Parce que, au départ, c'est un petit commis des postes et télégraphes. Il n'a pas la formation intellectuelle des autres. Il a essentiellement un parcours de syndicaliste. Et donc, à ce titre, on ne le prend pas véritablement au sérieux. Et je crois que c'était le cas de Pierre Messmer, lorsqu'il était gouverneur général, et il considérait qu'ayant favorisé l'ascension de Sékou Touré, il avait un peu barre sur lui. Et il n'attendait pas que Sékou Touré puisse avoir des positions aussi radicales face au chef de gouvernement de la France de l'époque.
La voix de Roland Collin dans La Marche du Monde, grand témoin de 1958. Il pose la question du mépris de l'administration française des colonies à l'égard de Sékou Touré. Qu'en pensez-vous, Céline Potier ?
Oui, je pense que c'est un argument qui est en tout cas assez souvent évoqué. En effet, son itinéraire n'est pas celui d'un Senghor ou d'un Houphouët-Boigny. Il n'a pas fait ses études au niveau de l'Afrique occidentale française, par exemple à l'école William Ponty. Il n'a pas poursuivi ses études à Paris ou en France. D'une certaine manière, il a une expérience des institutions françaises assez tardive, puisqu'il est élu député de la Guinée française seulement en 1956, même si en revanche il a une expérience des structures syndicales de la France bien plus précoce. Et cela sans doute le place dans une position qui est un peu différente. Mais sans doute que l'élément explicatif principal, ce n'est pas forcément le mépris, c'est l'impréparation de cette rencontre, le 25 août. Je crois que ni Sékou Touré ni De Gaulle n'avaient bien compris qui ils avaient chacun en face. Et je pense que la deuxième dimension, c'est sans doute l'incompréhension par les administrations coloniales, en tout cas la haute administration coloniale, du fait que Sékou Touré, en fait, était déjà au pouvoir de la Guinée.
Sékou Touré déjà au pouvoir de la Guinée, Sékou Touré au pouvoir de son parti, le PDG, qui a déjà une pratique extrêmement autoritaire, que l'on peut peut-être rappeler, Céline Potier.
Cette radicalité, en effet, elle apparaît dès avant l'indépendance. Dans les affrontements électoraux entre le Parti démocratique de Guinée et ses rivaux, elle apparaît aussi dans le rapport compliqué, parfois tendu, que Sékou Touré peut avoir à l'égard de certaines sections de son propre parti.
Les contestataires.
Oui, il y a une section assez dynamique à Mamou qui critique un certain nombre de faits en 1957 et la réponse de Conakry est dans un premier temps de dissoudre cette section.
En ce qui concerne la chefferie traditionnelle.
Alors ça concerne plutôt la manière dont le parti arrive au pouvoir, puisque en essayant d'intégrer à son parti une base populaire, il s'adresse donc aux 100 voix de la société guinéenne. Et sa cible privilégiée dans les années 50, ça va être moins l'administration coloniale directement que les auxiliaires de cette administration, à savoir les chefs traditionnels, en particulier dans certains pays où ils avaient beaucoup de pouvoir. Et il va au bout de cette logique, une fois qu'il arrive aux commandes du territoire en 1957, en abolissant la chefferie le 31 décembre.
Le colonialisme, le néocolonialisme, honneur, pouvoir, gloire, victoire, fidélité, vive la production, critère de la révolution.
Leader syndicaliste devenu homme politique, le président de la République de Guinée s'appuie sur un parti qu'il tient d'une main de fer afin de mettre en œuvre son programme révolutionnaire. C'est le PDG, le Parti démocratique de Guinée. Mais quelle a été la formation idéologique de Sékou Touré? Quels sont ses modèles, Céline Potier?
Alors je crois qu'il y a trois modèles ou trois idées forces chez Sékou Touré. La première, c'est l'influence du socialisme, du marxisme. Alors je pense que ça fait partie d'un air du temps, mais aussi c'est lié à sa formation. Il a suivi les cours du soir du Parti communiste, il a été formé à la CGT.
Et à l'époque, ce syndicat est vraiment le premier de France, hein, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et donc il est formé, le socialisme, le marxisme va donner un cadre conceptuel à son régime, une rhétorique, une dialectique, etc. En même temps, il ne souhaite pas appliquer à la Guinée un socialisme qui aurait été défini pour d'autres sociétés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté d'adapter le socialisme aux sociétés africaines, donc un socialisme africain qui, par exemple, interprète la lutte des classes de manière assez lâche, puisqu'il n'y a pas, selon Sékou Touré, réellement d'affrontement de classes en Afrique. Il y a seulement un affrontement entre ceux qui profitent du système colonial et ceux qui sont exploités par lui.
En ce 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, RFI se mobilise, comme vous l'avez entendu sur notre antenne depuis quelques jours, et ce sera encore le cas lundi et mardi avec Appel sur l'actualité de Juan Gomez, ainsi que Décryptage de Nathalie Amar. Et maintenant, dans la marche du monde, je vous propose d'écouter un des discours les plus importants du XXe siècle, prononcé à Conakry le 2 octobre 1958 par Ahmed Sékou Touré pour l'indépendance de la Guinée.
L'indépendance de la Guinée ouvre une ère nouvelle pour la formation d'un État africain puissant. Notre choix dépasse donc le cadre du territoire. C'est une option au nom de tous les peuples coloniaux d'Afrique. C'est un tremplin au développement des peuples d'Afrique noire, de leur originalité et de leur civilisation. Ce n'est pas contre la France que nous avons choisi l'indépendance. L'indépendance d'un peuple ne se définit pas seulement par rapport à ses relations avec les autres peuples, mais surtout par rapport à sa propre destinée. C'est une vocation naturelle qui ne laisse plus aucun doute sur les possibilités d'association et de solidarité réelle, pourvu que la dignité et la personnalité des contractants soient reconnues et respectées. Et nous pouvons affirmer que les traditions démocratiques de la France, ainsi que les principes universels des droits de l'homme, seront déterminants pour la bonne compréhension entre la République de Guinée et la République française, d'une part, et d'autre part, entre la République de Guinée et toutes les nations du monde. et pour l'accélération de son passage de pays sous-développés au stade de pays techniquement, économiquement et socialement développés. Grand sentiment de haine ou de xénophobie ne nous anime. Notre volonté farouche, non dissimulée, part de la nécessité d'en finir avec l'irresponsabilité et le complexe d'infériorité. Nous avons la certitude qu'un peuple qui ne s'administre pas lui-même ne peut pas totalement se développer. À plus forte raison, jouer un rôle positif pour la paix et la prospérité du monde, pour la mise en valeur du patrimoine culturel du monde. Ainsi, pour la première fois, depuis le contact des deux continents, Europe-Afrique, un peuple met fin à la domination et tend la main loyalement, fraternellement à la nation qui le dominait en tournant les yeux vers l'avenir.
Dans son discours du 2 octobre 1958, Sékou Touré désigne son peuple comme celui qui montre le chemin à tous les autres. Céline Potier, comment l'interprétez-vous ?
Oui, je pense que c'est vraiment la deuxième idée force chez Sékou Touré, c'est que son anticolonialisme le mène, donc après l'indépendance, à développer une position d'ouverture au monde, à travers notamment la défense d'un panafricanisme très ouvert et d'un nationalisme qui au départ ne se veut pas étroit, mais veut vraiment faire de la Guinée un exemple, un modèle à suivre. Et de fait, ça va être le cas, en tout cas au moins jusqu'au tout début des années 1960, puisque la Guinée va attirer beaucoup de gens, que ce soit des militants anticoloniaux, des gens qui veulent se mettre au service de la Guinée indépendante, des militants venus d'Amérique ou d'Afrique du Sud, je pense par exemple à Myriam Makeba. Voilà, on va avoir quelque chose comme ça de très ouvert et qui cherche à faire de la Guinée un moteur aussi de l'unité africaine. Je pense que ça, c'est une dimension importante.
Des voltaïques également, comme oui. Le couple Kizerbo.
Absolument.
Joseph et Jacqueline.
Et dans tout ce mouvement, cette volonté, en effet, il le dit très clairement dans le discours, de revaloriser l'histoire et la culture africaine.
Alors, avec ce choix de l'indépendance immédiate, il va y avoir le prix à payer pour les Guinéens et pour de multiples raisons. Alors d'abord, la France ne va pas accepter la collaboration d'égal à égal proposée par Sékou Touré en dehors du modèle de la communauté française. Et puis aussi parce qu'on parle bien de révolution, hein, révolution guinéenne, et qui se fait forcément dans la violence, c'est la nature même d'une révolution. En refusant toute contradiction et en ciblant des groupes sociaux contestataires ou considérés potentiellement dangereux, Céline Potier. Au fond, pour Sékou Touré, qui sont les ennemis, là cette fois je parle des ennemis de l'intérieur ?
Les ennemis vont changer de visage au cours du temps. Hein. Finalement, c'est vrai qu'on a souvent coutume de rappeler que cette histoire elle est émaillée de la dénonciation d'un certain nombre de complots. Et en regardant donc à chaque fois quelles catégories de personnes sont dénoncées à chacun de ces complots, on voit différents ennemis apparaître.
Les premiers, ce sont les profs.
Oui, en 1961, c'est un complot entre guillemets donc important où les enseignants sont mis en cause au départ parce qu'ils ils mènent une revendication syndicale, ils sont soutenus par les étudiants et ils sont finalement réprimés beaucoup et certains d'entre eux vont passer plusieurs années en prison. Donc ce seront les enseignants, ce seront à un moment donné les commerçants après l'interdiction du commerce privé, ce seront les membres de l'armée en 1969. L'ennemi change de visage et chaque complot, finalement, est une manière pour Sékou Touré et son régime de régler des problèmes de politique intérieure et de politique extérieure.
À ce sujet, les mémoires des années Sékou Touré sont plurielles, vous l'avez écrit de multiples fois. Et en ce qui concerne la mémoire de la douleur, elle s'est libérée dès la mort de Sékou Touré en mars 1984. Écoutez la voix de Nadine Barry au sujet de son mari disparu en Guinée depuis 1971.
Mon mari ne faisait pas de politique, c'était un administrateur loyal et honnête qui était venu pour développer son pays et non pas pour servir un régime. Il était haut fonctionnaire parce que dans un pays sous-développé comme l'était la Guinée, comme l'est toujours la Guinée, les universitaires et les gens diplômés qui rentrent de l'extérieur sont forcément amenés à avoir un poste de responsabilité très vite. Donc, il était un universitaire qui a eu un poste assez élevé rapidement. C'était normal. Dans tous les pays du tiers-monde, il en est de même. Bien sûr, depuis plusieurs années, on s'était rendu compte que le système s'était plus ou moins perverti par rapport à l'enthousiasme et à la générosité et à toutes les bonnes idées du début. Mais vous savez, c'est comme les accidents, on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, ce genre de choses. Et du moment que chacun fait le même raisonnement que nous avons fait, du moment que vous êtes innocent, que vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de raison que le système vous atteigne. Et comme ça, on continue pendant des années.
Au moment de l'invasion portugaise et du complot de 1970, Nadine Barry et son mari diplomate sont à l'étranger, mais ils ont confiance et ils rentrent en Guinée.
Nous nous sommes posé la question, est-ce qu'on rentre ou pas? Nous n'avions rien à nous reprocher, il n'y avait pas de raison de ne pas rentrer. Et nous sommes rentrés, un mois plus tard, on a constaté que tous nos amis étaient arrêtés, quantité de gens que nous savions au-dessus de tout soupçon été mis dans ce complot. Alors là, nous avons été vraiment touchés. On a compris qu'on avait eu tort de revenir et on a décidé de repartir. Comme je l'explique dans le livre, en deux temps, les enfants et moi d'abord, puisque moi j'avais la chance de conserver la nationalité française. Et ensuite, mon mari a promis d'essayer de nous rejoindre à la première occasion de mission à l'extérieur, puisqu'il était diplomate, il avait deux ou trois missions officielles par an. Mais à dater du jour où j'ai été dehors avec les enfants, il n'a plus aucune mission et la police secrète a fait rayer son nom à chaque fois des listes de délégations qui partaient à l'extérieur. Donc il a tenté un départ clandestin et il était surveillé et il a été pris pratiquement sur la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et moi, je perds sa trace le 29 août 1972, malgré toutes les démarches que je raconte dans le livre. Et croyez-moi, je ne suis pas restée inactive. Je perds sa trace à cette date-là.
Nadine Barry en 1984, c'est une archive de l'INA, un exemple emblématique des disparitions politiques en Guinée et un combat dont elle a fait un livre, Céline Petier.
Oui, elle a écrit un livre qui s'appelle « Grain de sable » où elle décrit ses combats de femmes de disparues dans une association où elle était réunie avec d'autres femmes dans le même cas qu'elle. Et ce livre, ce qui est intéressant, c'est que bien que donc Nadine Barry a mené ses combats à l'extérieur de la Guinée, hein, mais ce livre a quand même circulé à la toute fin du régime des Sékou Touré et elle est restée ensuite célèbre comme la femme qui a refusé de serrer la main à Sékou Touré lors d'une entrevue que l'ambassadeur de France en Guinée avait réussi à lui organiser avec le leader guinéen.
Autre mémoire, celle du camp Boiro, là où la torture a été pratiquée sous Sékou Touré. Et dès 1984, donc à la mort du président, la parole s'est libérée grâce à la radio. Ça, c'est très original.
Oui, parce qu'une émission de radio qui s'intitulait « À vous la parole » a été proposé aux Guinéens, dans lequel justement d'anciens détenus venaient raconter leur expérience. Ceci dit, cette expérience n'a pas duré très longtemps, puisque ces témoignages posaient problème. Et je crois que là, on touche à peut-être l'une des clés de ce problème de mémoire en Guinée, c'est que cette répression n'était pas le seul fait de Sékou Touré. Il y avait des personnes qui ont pris part à l'organisation de ce système répressif. Et évidemment, la dénonciation et les témoignages sur la torture et les conditions d'emprisonnement au camp Boiro et dans d'autres prisons pouvait apparaître comme très gênante.
Et au sujet des violences politiques en Guinée, je vous recommande, chers auditeurs, le livre « Mémoire collective » coécrit par la rédaction Afrique de RFI, des universitaires et des défenseurs des droits humains, FIDH et OGDH, un livre coordonné par Laurent Courreau, rédacteur en chef du service Afrique, à découvrir également sur les pages Internet et Facebook de la Marche du Monde.
Depuis 1964, de conférences de cadre en Conseil national de la Révolution, le succès a guidé les pas du Parti démocratique de Guinée jusqu'au grand 8e congrès qui radicalisa la Révolution et éleva le secrétaire général au rang de responsable suprême de la Révolution. Militant du PDG, la Révolution est exigence,
Les assassins de Boireau voulaient que s'éteigne au ciel l'étoile et que la nation l'obscurité voile. Non, non, elle vit et vivra. Et la Guinée, partout, livrera au monde de l'exploitation le combat de la réhabilitation, car les militants Sili solidairement sont décidés à la défendre fermement.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Au son du Bambeya Jazz, nous revisitons le mythe de la révolution guinéenne, révolution dont le volet culturel est au centre de l'éducation des masses et de la réécriture de l'histoire. Et si je vous propose de prendre pour exemple la musique, c'est parce que les orchestres guinéens existent déjà avant 58, mais ils ne jouent pas le même répertoire, comme en témoigne Momo Vandal Souma en 1999 au micro de notre cher Théogène Karabayinga. Il retrace son parcours depuis 1947.
En 47, maintenant, on m'a affecté à l'abbé comme chef de poste. En 1947, j'arrive. Bon, il y a un coin là-bas qu'on appelle les Bouloko. Tous les fonctionnaires allaient se recréer là-bas au son du balafon. Ouais. Il n'y avait pas d'orchestre là-bas, rien, rien. Moi, j'avais quelques notions de partition et tout ce qui s'ensuit. Alors, on s'est réunis à l'abbé. On a dit, bon, écoutez, on va organiser comme à Conakry. On prend les bases, on entoure le marché et puis on fait appel. Alors, dans un an, on a pu constituer un orchestre. Un orchestre de banjo, de guitare. Alors, moi, j'ai appris le banjo. Bon, chaque soir, on faisait des soirées à l'abbé, au marché, sur le marché couvert. Bon, après, je suis resté là-bas jusqu'à 51. Après 50 ans, on m'affecte à Cancan.
Toujours au PTT.
PTT, toujours. PTT. En 52, on m'affecte à Conakry. Bon, j'ai intégré la Parisette, la douce Parisette, parce que ma femme actuelle, c'était son grand frère qui était le chef d'orchestre de la douce Parisette. J'ai intégré ce groupe-là. Maintenant, on a continué à jouer, on a continué à jouer, on a continué à jouer. Je faisais toujours le banjo. Bon. Je réveille tout le quartier, je crontis chez moi. La nuit, 2h du matin, 6h, je me lève, c'est la clare. Je suis arrivé à jouer ça. Parce que, ouais. Bon, je suis resté là-bas jusqu'à l'indépendance. Mais à l'époque, nous, on ne jouait pas les folklores, là, tout ça, non. On ne connaît pas. On jouait les mazurkas, les begins, les pasodobles, et tout ça, tout ça, tout ça. À l'indépendance, il faudra que nous soyons nous-mêmes. Il faudrait commencer à...
L'authenticité.
L'authenticité a commencé là-bas. Alors on a recruté tous les vieux musiciens là, dont je faisais partie. On a formé l'orchestre national, Sili Orchestre dénommé, dont le chef d'orchestre était M. Sarsi Kafouri. On a commencé à répéter l'authenticité.
De la musique traditionnelle guinéenne.
Voilà.
Momo Vandal Souma, il joue du banjo dans l'orchestre La Douce Parisette avant la révolution guinéenne, donc avant 58, avant la politique d'authenticité. Et puis là, il change de répertoire pour jouer du folklore, ce sont ses mots. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport à la tradition défendue par la révolution menée par le PDG, le parti du président Sékou Touré?
C'est très intéressant et puis c'est un des éléments de la politique de Sékou Touré qui est en général cité à son actif, cette intense politique culturelle. Pourquoi ? Parce que c'est une époque où vraiment il va inciter à la production artistique et dans le sens d'une revalorisation des cultures africaines. Alors ça se joue à la fois dans le théâtre militant, ça se joue dans l'écriture de l'histoire, les manuels scolaires, mais ça se joue particulièrement dans la musique. Pourquoi ? Parce que la musique, c'est un formidable vecteur d'émotion.
Il faut donc jouer l'authenticité.
D'émotion nationale.
Momo Vandal Souma.
Oui, et alors en même temps, c'est un Momo Vandal Souma, on sent qu'il a un petit peu de distance parce qu'il dit cette authenticité, donc... Au fond, elle est aussi politique, on nous encourage à le faire, donc on doit reprendre des airs traditionnels. Il faut dire quand même que de nombreux orchestres guinéens vont le faire avec brio, enfin, c'est le cas du Bambeya Jazz par exemple.
C'est extraordinaire.
Ils font vraiment ils inventent vraiment une musique moderne qui puise à la tradition.
Et dans ce pays de quelques millions de personnes pauvres et analphabètes, effectivement, ces chanteurs deviennent des professeurs. Ils racontent l'histoire héroïque de la lutte anticoloniale avec un immense talent.
Le sacrifice de Malia Camara eut le don de galvaniser l'énergie du peuple tout entier. Partout,
l'hydre colonialiste fut harcelée de toutes parts par les militants du PDG, tant et si bien que le 14 mai 1957, à l'occasion du 10e anniversaire de sa naissance, le Parti démocratique de Guinée installa le premier gouvernement du peuple qui devait supprimer la chefferie dite traditionnelle et organiser le pays sur des bases démocratiques. Peu après, le général président Charles de Gaulle, représentant du gouvernement français, entreprit une tournée de propagande forcenée en Afrique pour la campagne du oui au référendum. En Guinée, il trouva des patriotes résolus à défendre chèrement les intérêts de leur patrie africaine. En le recevant le 25 août 1958 au palais de l'Assemblée territoriale, notre leader bien-aimé Ahmed Sékou Touré déclara « Dans la vie des nations et des peuples, il y a des instants qui semblent déterminer une part décisive de leur destin ou qui, en tout cas, s'inscrivent au registre de l'histoire en lettres capitales autour desquelles les légendes s'édifient, marquant de manière particulière au graphique de la difficile évolution humaine les points culminants, les sommets qui expriment autant de victoires de l'homme sur lui-même, autant de conquêtes de la société sur le milieu naturel qui l'entoure. »
Sékou Touré, l'homme du nom, figure politique mythique, Sékou Touré, fer de lance, ou bien leader isolé de ses pairs africains. Écoutons les observations de notre grand témoin Roland Collin. En tant que directeur de cabinet du président du Conseil sénégalais Mamadou Dia, il assiste chaque trimestre aux réunions des chefs de gouvernement de l'Afrique occidentale française avant l'indépendance.
Sékou Touré exerçait une certaine fascination sur ses pairs par sa faconde, son éloquence, son charisme d'une certaine manière, mais le contenu de ses propos n'avait pas la même portée. Il séduisait et agaçait en même temps.
Pourquoi ?
Sékou Touré voyait les choses essentiellement autour de son propre univers à lui, écoutait mal les autres, et donc, à ce titre-là, il agaçait, bien sûr.
C'est le fameux orgueil dont le qualifie de Gaulle.
Oui.
Est-ce que c'est aussi son itinéraire de syndicaliste qui l'isole en quelque sorte par rapport aux autres qui se sentent peut-être plus légitimes politiquement ?
C'est certainement une des dimensions du problème. Sékou Touré était un petit commis des Postes et Télégraphes, donc il n'avait pas de formation intellectuelle, comme bien sûr Mamadou Dia, mais même Joao Fouette était médecin africain.
Fouette Boigny.
Et donc, Modibo Keïta était aussi un instituteur. Hein, alors que lui, il n'avait pas ses bases de référence. Mais il balayait tout cela avec une sorte de dédain. Hein, et il estimait effectivement que ces gens étaient trop sous la dépendance des références intellectuelles extérieures.
Donc au fond, Roland Collin, lors de ces réunions de travail une fois par trimestre, bien avant les indépendances, vous observez une forme d'isolement de Sékou Touré.
Cet isolement tenait au fait que ses pairs voyaient mal comment bâtir une collaboration avec cet homme qui n'avait pas les mêmes références qu'eux et qui récusait leurs propres références, notamment sur le plan économique. Sékou Touré mettait en évidence ses références culturelles, la promotion qu'il faisait des cultures africaines, mais disons en jaugeant de haut un peu ses partenaires.
Néanmoins, Roland Collin, vous qui êtes donc directeur de cabinet de Mamadou Dia et qui assistait à ces réunions tous les trimestres, qui avait devant vous, devant vos yeux, Sékou Touré, à titre personnel, est-ce que vous êtes un peu épaté quand même par le bonhomme ?
Je suis un peu épaté par, disons, la magie du verbe. Il était d'une grande éloquence et il avait certainement l'obsession de paraître plus que ses autres partenaires.
Y compris dans ses tenues vestimentaires ?
Mais notamment dans ses tenues vestimentaires.
Tenues vestimentaires africaines, bien sûr.
Non, à l'européenne.
Ah !
Avec des complets vestons du meilleur tailleur, des chaussures de haut de gamme. Et ce qui contrastait avec ses pairs.
La voix de Roland Collin dans La Marche du Monde, son témoignage pose la question des relations de la Guinée avec ses pairs africains. Et l'on comprend que le nom à la France est peut-être aussi un nom aux autres leaders africains de l'époque. Que vous inspire ce témoignage vécu, ce témoin oculaire de ces réunions avec Sékou Touré, Senghor, Mamadou Dia, Modibo Keïta, une galerie de portraits absolument extraordinaire.
Oui, ce qui est intéressant dans le témoignage de Roland Collin, c'est l'insistance sur le style politique, en fait, de Sékou Touré et sur sa personnalité. Il est souvent décrit comme un séducteur auprès des femmes, mais il séduit aussi les hommes d'une autre manière. L'insistance sur les tenues vestimentaires est intéressante aussi.
Parce qu'en effet,
oui, européenne, mais il se met à porter des costumes à l'africaine à partir de septembre 1957, ce qui marque un infléchissement, justement, peut-être vers la politique d'authenticité qu'il va finir par mettre en œuvre. En effet, les relations qu'il a ensuite entretenues à partir de 1958 et je dirais jusqu'en 1978 avec ses voisins africains ont été très complexes, des hauts et des bas avec le Sénégal, de la même manière avec la Côte d'Ivoire. Et pourtant, Oufouette Boigny avait soutenu Sékou Touré à ses tout débuts, c'est lui qui l'avait aidé à avoir son premier mandat électif en 1953. Et pourtant aussi, avec Senghor, ils avaient des points d'accord, comme par exemple la posture fédéraliste, hein, l'idée de ne pas balkaniser l'Afrique en différents territoires, mais que ces territoires puissent rester groupés. Avec Modibo Keïta, l'alliance sera plus forte. Sékou Touré utilisait cette expression du Mali et de la Guinée comme les deux poumons d'un même corps. Ils étaient plus proches idéologiquement aussi et ils ont mené des politiques très semblables en termes justement de révolution et aussi d'authenticité. Le Mali d'ailleurs, de ce point de vue-là, a un peu imité la Guinée.
Sékou Touré restera en tout cas l'homme qui a dit non.
Notre combat est dur, mais nul ne nous y attendrait. Nous avons choisi volontairement de le mener. Nous sommes esclaves de notre choix. Et c'est notre fidélité stricte à cet esclavage qui fait de nous des hommes libres et dignes.
Quelle formule, Céline Potier ? Nous sommes esclaves de notre choix, dit Ahmed Sékou Touré. Est-ce que là, il ne donne pas lui-même la clé de compréhension de ce fameux nom à De Gaulle dans cette déclaration ?
En tout cas, je pense qu'il pose la fermeté, il exprime la fermeté avec laquelle finalement la Guinée tiendra cette position. Après avoir, au tout début, essayé tout de même de nouer des relations avec la France, les Guinéens vont se tenir éloignés de toutes les formes de regroupement qui se faisaient sous l'égide de la France, qu'il s'agisse de regroupements économiques, de zones monétaires, puisque la Guinée sort de la zone franc. C'est ce qui va donner la singularité, je pense, à la Guinée aussi sur un demi-siècle, c'est le fait qu'elle soit sortie de l'influence française de manière aussi prononcée.
Une Guinée chantre de l'anticolonialisme, mais aussi du nationalisme.
Oui, mais je pense qu'en tout cas au départ en 1958 et au moment du fameux discours de Sékou Touré, il demande donc en fait de pouvoir redéfinir une communauté franco-africaine de manière différente, qu'elle soit complètement décolonisée. Or, il se trouve face à cette réaction très intransigeante du général de Gaulle qui dit en gros vous êtes soit contre nous, soit avec nous. Finalement, peut-être que c'est De Gaulle le plus nationaliste des deux à ce moment-là.
Merci Céline Potier. Sékou Touré, figure politique mythique. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, réalisé par Sophie Janin et Médard Chablaoui, avec les archives sonores de RFI et de l'INA, proposées par Vanadis Feuille. Toutes les références de cette émission sont à découvrir sur la page internet de La Marche du Monde. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.